Dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
On est de retour à notre segment Habs Radio tous les mercredis avec Simon Snake Boisvert du podcast Processus avec Mathias Brunet. Comment ça va, Snake?
Ça va super bien, toi, Tony?
Oh, moi, ça va très bien. Tu sais, Snake, moi, je prends de l'âge. Hein. J'ai 51 ans, puis des fois, j'ai des pertes de mémoire, comprends-tu? Peut-être parce que j'ai fait 4 commotions dans ma vie, puis ça aide pas non plus, là, tu sais. Donc, juste, si tu peux m'aider, parce que j'oublie tellement de choses, c'est quoi les choses que tu as dit de Lane Hutson dans les dernières années? Je suis juste curieux un matin, vas-y.
Bon, qu'est-ce que j'ai dit?
Oui, oui.
Moi, je vais faire un résumé, là.
Oui, oui.
Moi, j'ai souvent dit que c'était un genre de joueur que j'avais jamais vu auparavant, puis ça fait 50 ans que je suis le hockey, parce qu'il y avait un style de jeu qui était pas vraiment traditionnel. J'avais dit aussi que j'étais sceptique à l'idée si ça pouvait bien se transposer dans la Ligue nationale de hockey. Ça, j'avais dit ça aussi.
OK.
Et puis, je me disais que dans sa zone, ça pourrait être très difficile et que c'était plus un joueur de jeu de puissance et qu'il fallait bien gérer ses minutes parce que c'est pas un gars qui peut jouer 25 minutes par match. En gros, c'est ça que j'avais dit.
OK. 4 matchs ne fait pas une carrière. Après 4 matchs, on va toucher tous les points. Penses-tu que Lane Hutson est un joueur de la Ligue nationale?
Oui.
Penses-tu que Lane Hutson est un top 4?
Oui.
Penses-tu que Lane Hutson peut jouer plus que 23 minutes par match?
Non.
Non?
Et pour moi, c'est moins que ça.
OK.
OK, parce que je considère que... Puis tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans. Là.
Non, il n'y a rien de mal là-dedans.
Un top 4 de défenseur, là, ça doit être grugé à peu près au total 100 minutes par match. C'est à peu près, là, une moyenne de 20-25 minutes chaque. Là, 90 okay. minutes par match, mettons.
Mm-hmm.
Bon, ben, tu répartis ces 90 minutes-là. Tu as un gars peut-être comme Gouley qui peut en jouer 24-25,
ouais.
Mais un gars comme Hutson pourrait en jouer 18,
okay. Exemple.
Alors, il n'y a rien de mal là-dedans. Et à ce moment-là, ben, tu le protèges contre certaines situations qui peuvent être un petit peu difficiles. Par exemple, quand tu es à domicile, ben, tu peux, dès qu'il y a une mise en jeu en zone adverse, ben Tu t'arranges pour la mettre sur la glace. Si la mise au jeu est dans sa zone, ben, tu essaies d'éviter le plus possible. Tu sais, c'est juste une gestion, finalement, du joueur pour que son rendement soit absolument optimal. Ceci étant dit, il n'est pas mauvais défensivement, il a un bon bâton, mais il y en a vraiment pour moi qu'il est tout petit, puis devant le filet, ben, on l'a vu contre les Bruins l'autre soir, par exemple, c'est pas facile pour lui.
OK, mais tu penses qu'il peut défendre dans la Ligue nationale, par exemple?
Il peut défendre, mais tu sais, c'est comme Quinn Hughes. Quinn Hughes, c'est un de mes joueurs préférés, mais je suis quand même capable de reconnaître que ce gars-là, en série, c'est plus difficile dans sa zone. Puis Quinn Hughes, n'oublie pas, on le fait jouer 27-28 minutes par match. Même si c'est un joueur exceptionnel, offensivement, je trouve que c'est trop. Mais à Vancouver, ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas une grosse brigade défensive.
Oui. Non, là, je comprends, par exemple, parce que si tu fais attention aux minutes, Les petits joueurs, d'habitude, là, la première moitié de saison est meilleure que la deuxième. Oui. Puis quand tu rentres dans les séries, d'habitude, on dit que tu as besoin des joueurs qui sont un peu plus grands, un peu plus forts, parce que c'est tout un marathon pour passer à travers des séries, puis c'est peut-être plus facile pour eux. Si tu contrôles les minutes durant la saison, ils vont avoir plus de fraîcheur dans les séries, par exemple.
Bien, c'est sûr, parce qu'oublie pas, oui. Tu sais, les gens qui sont plus petits, physiquement,
okay.
Ils vont se fatiguer plus vite. Tu sais, tu fais là, je sais pas moi, j'ai fait pas mal de sport avec mes amis dans ma vie. Moi, je suis pas un gros gars. Alors, et je jouais des fois, je sais pas moi, au tennis ou n'importe quoi, avec des gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 200 livres. Je commençais le match très fort, mais à un moment donné, quand ça faisait une heure qu'on jouait, je me fatiguais plus vite qu'eux autres. Puis, j'ai parlé à bien du monde dans cette situation-là, bien des athlètes, et malheureusement, la nature s'est fait comme ça.
Oui, mais Snake, avant de participer à un sport, tu n'es pas supposé de baiser pendant 3 heures avant de participer au sport. Là, tu comprends-tu? Là? Toi, tu baises pendant 3 heures, puis là, tu t'en vas jouer au tennis une heure plus tard. Tu n'as pas de jambes, c'est normal?
Oui, non. En tout cas, on se comprend. Fait que je pense que c'est ça qui arrive, et c'est pour ça que tu dis qu'en première moitié de saison, les petits joueurs vont plus se démarquer, puis après ça, ben, plus l'année avance, plus c'est difficile. D'où l'idée de gérer les minutes.
Ouais.
Parce que le gars, moi, je peux te dire une chose. pour compléter mon évaluation.
Oui.
Offensivement, dans la zone offensive.
Oui. Puis c'est pas juste baiser, hein, de Snake, là. C'est pas recommandé avant de faire du sport, là, d'amener ton laptop ou ton cellulaire dans la toilette pour regarder certains sites non plus. Là. C'est pas recommandé, là.
Snake, mais regarde, c'est pas grave. Moi, je te confirme, Tony, il a appris. Écoute ça.
Premièrement, si tu veux rentrer dans les détails, là, si tu veux rentrer dans les détails, okay. Je mets pas la masque avant de faire qu'est-ce que j'ai à faire. Là.
OK. Non, mais okay?
C'est OK. Puis ça se passe tous les soirs à 23h. Là. Est-ce que tu veux plus d'informations?
Ouais, toutes les soirs!
Dès la fin du, ben dès la fin du podcast?
Ouais, je vais être honnête avec toi, j'ai besoin de ça pour fonctionner dans la vie. Sinon, je
peux pas. Là, donc, voilà, Tony, Snake, là, voilà. Tony, c'est tous les soirs 23h, pas Snake, avant de faire rien d'autre.
Donc, Snake, écoute, encore une fois, là, parce que tu dis que t'es épuisé quand tu t'en apprends une heure que tu joues au tennis, OK? Va te dire aujourd'hui, le 16 octobre, il est actuellement 11h06.
Ouais.
Avant que tu t'en vas jouer au tennis avec tes amis, c'est pas recommandé de baiser pendant des heures avant, puis c'est pas recommandé d'amener ton laptop dans la toilette avec toi pour aller le fouiller sur certains sites web non plus, là. C'est pas une bonne idée, Snake. Après le match de tennis...
NHL.com?
Non, après le match de tennis, tu peux faire ça. Avant le match, c'est pas recommandé.
Merci du conseil, Tony.
OK, parce que tu vas voir, tes jambes, ils seront pas le même. OK. Moi, je reçois... Non. Je reçois des messages, là.
Offensivement, moi, ce qui m'a frappé, puis ça fait juste 6 matchs que les Nautilus jouent dans la LNH. Donc, c'est sûr qu'il faut pas partir en peur. Mais, il y a des choses qui trompent pas. Tu sais, la petite danse qu'il fait à la ligne bleue, les feintes avec les épaules, la tête. Moi au début, quand je voyais ça, là, je voyais ça dans le programme national américain quand il y avait 16 ans, 17 ans. J'ai vu ça à Boston University. Puis je me disais, à un moment donné, chez les pros, il y a quelqu'un qui va y rentrer dedans. Mais l'affaire, c'est que ce que je constate après 6 matchs, c'est que c'est pas évident de lui rentrer dedans. Comprends-tu? Parce que il est trop vite. Il est trop vif, il est trop vite. Il est trop agile. Alors, d'après moi, ça, c'est une facette de son jeu qui est durable. OK? Ce qu'il fait en ce moment en zone adverse, les équipes pourront jamais s'ajuster. Bon, c'est sûr que une façon de le contrer, tu peux faire de l'échec avant. Ça peut s'ajuster. Mais un coup qui est en zone adverse, il est pas arrêtable, ce gars-là. Alors, moi c'est ça un peu là, l'analyse là, des 6 premiers matchs de sa carrière que j'ai fait.
OK. J'ai des commentaires sur YouTube, là.
Oui, vas-y.
Ça se peut-tu que tu as déjà dit d'échanger Lane Hudson?
Oui. Ben, c'est que moi, j'avais dit l'année passée.
Oh my God.
J'avais dit si le Canadien, mettons, reçoit une offre du 7e choix au total pour Lane Hudson, saute dessus. C'est ça que j'ai dit.
Et aujourd'hui, quand tu regardes Lane Hudson jouer, là. Si tu penses que toi, t'as dit, t'étais mieux de l'échanger.
Je peux pas ni confirmer, ni changer mon idée là-dessus. Parce que le 7e choix overall, ça peut te donner tout un joueur de hockey aussi.
Mais imagine-tu, tu voulais échanger de Lane Hudson.
Ouais, mais si
c'est le défenseur le plus excitant que les Canadiens ont depuis Piqué Subban.
Je le sais, j'avais dit ça. Je te dis pas que je le ferais. Mais je te dis que le 7e choix au total, c'est souvent tout un joueur de hockey, là. Tu comprends?
Oui.
C'est ça. Alors, moi, c'est ça ma réponse.
Mais je peux pas imaginer que le Canadien, s'ils auraient échangé Lane Hudson, pouvait recevoir un joueur qui pouvait amener au Canadien qu'est-ce que Lane Hudson amène. Parce que moi, je te dis honnêtement, là, moi, aujourd'hui, là, il y a une équipe qui m'appelle et me dit « Je veux que tu m'échanges Lane Hudson. » Je pense que j'accroche le téléphone. Mais j'entends même pas l'offre.
Tous les joueurs ont un prix. Puis tu sais, à un moment donné, là, puis là, je veux pas faire mon fatigant, là, mais à un moment donné, tu sais, puis je dis pas ça de façon méprisante, là, mais il y a beaucoup d'amateurs de hockey qui vont regarder juste leur équipe, que ce soit le Canadien, les Bruins, les Leafs, en tout cas, whatever, l'équipe dont tu es partisan. Alors, à un moment donné, tu analyses ton équipe un peu comme dans une bulle. Mais quand tu vas regarder les matchs des autres équipes à un moment donné, tu vois qu'il y a des solides joueurs de hockey dans les autres équipes aussi. Alors, pour ça que je te dis que tous les joueurs ont un prix. J'ai regardé hier soir Dallas contre les Sharks. Je regardais les Stars de Dallas.
Mais oui, je comprends que tous les joueurs ont un prix. Wayne Gretzky a déjà été changé, je comprends. Oui, mais Lane Hudson, tu voulais l'échanger même avant que tu le vois jouer un match dans la Ligue nationale avec le Canadien, là.
Ben oui, puis.
Mais oui, puis. Ça veut dire quoi, ça, mais oui, puis?
Mais non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu cherches toujours à améliorer. C'est une gestion des actifs. Tu cherches toujours à améliorer ton équipe. Si toi, tu penses qu'une équipe te fait une offre et que cette offre-là va améliorer ton équipe, ben tu la prends à tort ou à raison. Peut-être que ça va faire en sorte que tu vas avoir tort en bout de ligne. Mais tu dois écouter tout le monde.
Mais écouter tout le monde pour échanger un jeune de 20 ans quand toi, tu es en reconstruction et que ton noyau, c'est tous des jeunes joueurs et tu veux que l'équipe soit bonne pour les prochains 7 ou 8 ans.
Si tu obtiens exemple le 7e choix, ben, ça aussi, c'est un jeune joueur.
Ça veut dire quoi, un 7e joueur?
Un joueur de 20 ans en reconstruction contre un vétéran de 32 ans à qui il reste un an.
Non, mais reviens-moi, tu parles de 7e joueur souvent. Ça veut dire quoi, 7e joueur?
Non, mais j'ai donné l'exemple l'année passée. Tu m'as posé une question. Tu as dit, tu as déjà suggéré d'échanger Lane Hudson. Et je te dis oui. Et j'avais dit à ce moment-là, ben, j'ai dit, si Canadien se fait offrir le 7e choix au total, au repêchage, saute dessus. C'était ça mon commentaire.
Mais pourquoi on échangerait un défenseur élite de ce niveau-là, là, maintenant qu'on
parce
le sait.
Parce qu'il ne croyait pas en lui.
Pour un 7e choix.
Mais c'est correct. Lui, il a un job difficile.
Le 7e choix, ce n'est même pas une valeur sûre.
Quelqu'un qui donne ses opinions sur les jeunes joueurs, là, c'est pas facile.
Mais non, je sais.
Vas-y.
Oui, mais Hudson n'était pas une valeur sûre avant. Il y avait des doutes. La preuve, là, regarde les... Ça vaut ce que ça vaut, là. Mais regarde les classements d'espoir que certains... observateurs, là, analystes de repêchage font. Ouais. Regarde les classements d'espoir de cet été. Il y en a qui l'avaient comme 45e meilleur espoir chez les recrues ou chez les jeunes joueurs non déjà repêchés, mais non dans la Ligue nationale.
Tu sais pourquoi? C'est à cause de son gabarit.
On parlait pas de lui comme de Cale Makar, là, quand même. Là.
Non, mais les gars avec un petit gabarit, il descend toujours dans le classement pour les joueurs. Oui. Là, il descend. Oui. Tu l'as vu, là, toi, tu t'avais dit dans le temps que, écoute, puis ça a été tout un pic, là. Toi, tu voulais que le Canadien repêche Quinn Hughes 3e, OK? Aujourd'hui, évidemment, tu aurais eu raison. Mais oui. il a baissé à 7. Pourquoi? Parce qu'il est petit. Caulfield, Pat Brisson était convaincu que Caulfield allait dans le top 10. Là. Il a même dit à Marc Bergevin, mais là, on va pas souper avec lui, là, il va être parti, là, ça c'est sûr. Mais à la fin, il est sorti 15e. Pourquoi? Parce qu'il était petit. Les joueurs qui descendent dans le classement ou dans le repêchage, ou des fois, ils sont même pas repêchés parce qu'ils sont petits, il y en a beaucoup,
oui, mais
beaucoup
c'est normal, qui finissent par être des vedettes. C'est normal, Tony, parce que pour un Johnny Gaudreau, il y a plein de Rocco Grimaldi. Tu sais, des gars de 5 et 6, 5 et 7, 5 et 8 qui sont habiles. Tu sais, on sort toujours les exceptions pour nous dire « Ah, il faut pêcher les petits joueurs quand ils sont bons, il faut pêcher les petits joueurs quand ils sont bons. Pourquoi ils descendent? » Oui, ils descendent, il y a une raison. Parce qu'il y a une analyse qui a été faite de la majorité de ce type de joueurs-là. La preuve, Lane Hudson, il est sorti 62e.
Oui, à cause de son gabarit, parce que Lane Hudson, oui. Mais corrige-moi si j'ai tort. Quand Lane Hudson a joué avec le U.S. National Development, puis oui. Quand Lane Hudson avait joué avec Boston University,
oui.
Il était le meilleur. Corrige-moi si j'ai tort, là. Parce que
à la défense, oui.
Mais là, à la défense, il joue pas gardien, là.
Non, mais là, on n'inclut pas. Il y avait Macklin Celebrini avec lui. Là,
non, mais je comprends. Là. Mais demande à Macklin Celebrini. Macklin Celebrini dit qu'il n'a jamais vu un joueur comme Lane Hudson. Tu veux savoir quelque chose sur un bon joueur? Là. Demande à un autre bon joueur, il va te le dire. Là.
Bon, ben vois-tu, là, je vais te donner un exemple. À Boston University l'année passée, il y avait un joueur qui jouait à la défense dans sa brigade défensive. Tom Wallinder, un Suédois.
Oui, je m'en souviens. Oui.
Choisi 11e par Vancouver.
Exact.
11e.
Exact.
Hudson était meilleur que lui.
Oui.
Et il y a une raison pourquoi il a été choisi 11e et qu'Hudson a été choisi 62e.
Oui, parce qu'un fait un. Parce qu'il fait 6 pieds 1.
Ben, c'est ça. C'est ça. Puis je te dis pas que c'est toujours la bonne chose à faire.
Puis
mais je vais juste expliquer ce qui s'est passé.
Parce que c'est un droitier aussi. Parce que quand Lane Hudson était avec le U.S. National Development Team, là, OK, les deux années qu'il était là, le gars qui était devant lui sa première année, là, parce que le gars qui était devant lui la première année, c'était, ils avaient des bons défenseurs, là. Il y avait Seamus Casey, qui était dépêché par les Devils de New Jersey.
Qui joue très bien d'ailleurs cette année, un autre petit joueur.
Exact. Et il y avait Luke Hughes, qui évidemment est tout un défenseur, aussi dépêché par les Devils de New Jersey. Ça, c'était la première année avec le U.S. National Development Team. OK?
Ouais.
Lane Hudson avait mis 14 points en 27 matchs. La deuxième année, là, il a marqué 32 points en 27 matchs. Il était le meilleur défenseur de l'équipe. Le meilleur défenseur de l'équipe. À Boston University, les deux ans qu'il était là, il était le meilleur défenseur de l'équipe, puis le meilleur défenseur au niveau collégial. Dans la Ligue. Deux ans de suite. Donc, moi, qu'est-ce que je te dis? Moi,
qu'est-ce que je... Tu n'es pas en train de me dire que tu prendrais les Hudson avant Luke Hughes, là, quand même.
J'ai pas dit ça. Puis, il n'y en a pas beaucoup qui le prendraient non plus parce que Luke Hughes, il y a tout un gabarit, ces choses-là. Mais Luke Hughes, il n'était pas repêché quatrième. Mais moi, je te dis que si le repêchage était à refaire aujourd'hui, là. Si le repêchage 2022 était à refaire aujourd'hui, là.
Oui. OK?
Penses-tu que Chicago, qui ont choisi Kevin Korchinski, le défenseur, septième, ou Columbus, qui ont sélectionné Yiricek, sixième, s'ils étaient à l'affaire aujourd'hui, tu ne penses pas qu'ils ne prendraient pas Hudson?
Pas certain, Tony, parce que là, tu fais une réaction excessive après deux ans.
Mais là,
un repêchage, là, ça s'analyse. Une vraie analyse d'un repêchage, c'est quand la carrière de tout le monde est finie.
Columbus,
si si tu veux pas attendre 15 ans, là, ben attends au moins 5 ans.
Ben, je comprends. Columbus, ils ont choisi un défenseur 12e, là. Il n'a pas joué un match dans la Ligue nationale encore. Là.
Denton Marichuk, oui, qui est dans la Ligue américaine.
Exact.
Je te dis pas que Columbus ne choisirait pas Hudson. Je te dis juste qu'un repêchage, un redraft, comme on dit, un re-repêchage, ça se fait pas deux ans plus tard.
OK. Et moi, je te dis que toi, tu as la job la plus difficile au monde.
Oui.
De donner des opinions sur des jeunes joueurs. C'est pour ça que je te respecte et respecte n'importe qui fait ce métier-là. Parce que c'est le métier dans le monde de hockey qui est le plus difficile. C'est de voir un jeune puis essayer de projeter qu'est-ce que le jeune il va avoir l'air dans 5 ans, dans 7 ans, dans 9 ans, dans 10 ans. La seule chose que je te critique un matin, là, critiquer, c'est que t'es un émotif. Puis t'es pas le seul Québécois émotif dans les médias, puis tu serais pas le dernier non plus. Mais il y en a plusieurs qui veulent échanger des joueurs, même avant qu'ils jouent un match en Ligue nationale avec le Canadien.
Okay, non, c'est justement, je suis pas émotif, je suis pragmatique, Tony.
Et moi, c'est tout, moi.
Ben oui, je suis pragmatique. Parce que moi, je regarde pas ça avec les yeux d'un fan, je regarde pas ça avec les yeux d'un anti-fan, je regarde ça avec les yeux d'un gars qui observe des choses. Je regarde des matchs de hockey. Écoute, tu peux pas savoir combien d'heures de hockey que j'ai écouté en fin de semaine. Fait que moi, à un moment donné, regarder Canadien-Pittsburgh ou regarder Dallas-San Jose ou regarder Boston College, oui. Honnêtement, pour moi, c'est tout pareil. OK? Justement, je n'ai pas l'émotion, moi.
OK.
Je n'ai pas l'émotion, puis c'est correct, là. C'est bon que les gens soient partisans d'une équipe puis ils trouvent du fun là-dedans, puis c'est, je critique pas du tout ça. Mais faut que tu comprennes que moi... Je regarde ça avec un œil d'observateur neutre.
OK.
Qui a juste des opinions à donner. Puis et peut-être que si j'étais à la radio de Columbus, peut-être que je ferais rager les gens à Columbus aussi.
OK.
Tu comprends?
Avec Simon Snake Boisvert, collaborateur de notre segment Abs Radio à tous les mercredis. En passant, Simon, il a sorti un podcast avec Mathias ce matin. Tu peux le trouver déjà sur YouTube et sur toutes les plateformes. Là. Il parle évidemment toujours des joueurs des Canadiens et de certains prospects. T'es là, Snake?
Oui, je suis là.
T'as parlé de qui aujourd'hui sur le podcast?
Ben, à part les Hudson, là, on a parlé de Kapanen. Oh, également, on a parlé de Michael Hage.
OK.
On a parlé de ses matchs que je vois en fin de semaine. Michael Hage qui prend du galon dans le rang des espoirs du Canadien. Je pense que c'est un futur top 6. Très, très bon début de saison à Michigan. Et puis, excellent choix là, du CH l'année passée. Et on a parlé un petit peu de Jacob Fowler, blanchissage vendredi soir, un petit peu plus difficile pour lui samedi, mais encore là, vraiment le top espoir du Canadien là, devant le filet.
OK. T'as dit quelque chose dans le passé, là. T'as dit que selon toi, Caden Primo n'était pas un gardien de but l'année dernière. T'as même dit, quand moi j'ai dit, ben oui, mais il voulait pas le perdre parce qu'il pensait que quelqu'un allait le réclamer au balotage. Toi, tu t'as dit, who cares, là? Si quelqu'un veut le réclamer, qu'il le réclame. OK.
Ouais.
Là, je parle pas juste parce que c'était un match, là. parce que, tu sais, je peux pas dire ça. Caden Primo, là, il a 25 ans, là. OK, à un moment donné, là, t'arrêtes d'être jeune, là. Ouais. Il a 25 ans, Caden Primo. J'ai pas aimé son match à Boston. Il regardait toujours en arrière de lui, il était pas sûr de lui. Il avait l'air d'un nerveux d'un gars de 18 ans qui jouait sa première match dans les nationales. Il avait connu un camp lamentable. Et, finalement, je dois dire que je souhaite encore de rebondir, mais je vais te dire que moi, j'ai perdu confiance en Caden Primo. Moi, j'ai perdu confiance en Caden Primo.
Ouais, moi, tu sais que j'ai jamais eu confiance. Et puis ça, tu viens de le mentionner. Puis je pense qu'éventuellement, si Jakub Dobesh continue à bien performer à Laval, il va falloir peut-être lui donner une chance. Parce que Primo ne peut pas avoir des sorties comme il y a eu à Boston trop souvent cette année. Parce qu'on compte quand même sur lui pour 25-30 matchs par année. Hein. Montembeau, il en jouera pas 75.
Snake, moi j'ai mentionné que si Primo ne devait pas passer par le ballottage, moi je suis convaincu que Dobesh allait commencer la saison avec le Canadien. Et maintenant, ouais, on écoute le vice-président exécutif Opération Hockey du Canadien de Montréal, Jeff Gorton, qui était avec les gars à l'antichambre hier soir.
Young guys there, I think they played well, but we didn't necessarily have a spot for it. I thought Dobesh played really good. Mm-hmm. And showed us what it could look like down the road.
Arrête.
I thought Emil Heinemann had a really good camp.
Wait. Dobesh, guys that played really good, les gars qui ont vraiment bien joué, that we didn't really have a spot for, qu'on n'avait pas vraiment un position pour un poste pour eux. Dobesh played really good. Dobesh y a bien joué. And showed us what it could look like down the road. Et nous a montré de quoi ça peut avoir l'air. Moi, j'entends ça, là. Puis moi, j'ai dit, on prépare déjà la sortie de Primo. Puis là, Dobesh va être avec le Canadien dans pas longtemps. Je peux me tromper, là. C'est ça, mon interprétation de qu'est-ce qu'il vient de dire.
Bien, ce qui arrive, là, avec Dobesh, la différence avec Primo, je te dirais, parce que Dobesh, il est quoi? Il est 2 ans plus jeune, je pense. Il a 23 ans quand même déjà.
Oui.
Mais il a joué longtemps dans l'NCAA. La différence, c'est que Dobesh, lorsqu'il est arrivé à Laval l'année passée, ça a été très, très difficile. Hein? Il y en a même qui avaient fait une croix sur lui en début de saison. OK, un autre gardien à mettre dans aux oubliettes, là. Mais ce que j'ai aimé, c'est que il s'est amélioré, il a progressé toute l'année. Et il est sur une courbe de progression. Moi, Caden Primo, depuis qu'il est arrivé chez les pros, j'ai vu des montagnes russes. J'ai pas vu une courbe de progression. À un moment donné, il était très bon durant les séries à Laval. Il arrive à Montréal, il y a eu des mauvais matchs. À un moment donné, il a fait des blanchissages. Et là, des mauvais matchs. Alors, à un moment donné, tu peux pas vivre avec les montagnes russes. Ça prend une courbe de progression positive. Puis je pense que Dobesh, contrairement à Primo, c'est ça qu'il y a eu. Est-ce que Dobesh va être un bon numéro 2 dans la LNH? On le sait pas encore. Tu le sais, prédire les gardiens, c'est de la sorcellerie. Mais je pense que Dobesh mérite de jouer des matchs d'ici la fin de la saison ici.
Si je regarde les deux gardiens buts, là, au même âge, quand ils ont joué plusieurs matchs avec Laval, Primo avait joué 41 matchs. Dobesh en a joué l'année passée, il en a joué 51. Primo avait un but à lui de 3-0-4. Dobesh de 2-93. Pourcentage d'arrêt pour Primo de 909 sur 41 matchs. Pourcentage de 906 pour Dobesh sur 51 matchs. Dobesh repêché en 5e ronde. Primo en 7e ronde. Dobesh 2 ans plus jeune. Dobesh 6 pieds 4. Primo 6 pieds 3. Moi, je pense que ça va vers Dobesh. Je pense que ça va vers Dobesh. Puis même là, je doute que Primo peut pousser Montembeau. Parce que qu'est-ce que toutes les équipes cherchent? C'est la compétition à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il est capable de le pousser. Je pensais qu'il était capable de le pousser. Là, je doute. J'ai perdu confiance en lui.
C'est pour ça que je te disais à ton podcast l'année passée, ils peuvent le perdre au ballottage. Ben oui, who cares? Ils le perdront.
Demidov, évidemment, Jeff Gorton a dit hier, là, oui, on est frustrés aussi. On a parlé avec le club, puis eux autres, ils savent ce qu'on pense, mais malheureusement, on ne peut pas le ramener à Montréal plus vite. Il n'y a pas d'entente avec la KHL. On ne peut pas le sortir avant. Donc, il va être là pour l'année, mais on a très hâte à ce que Demidov se joigne à nous. Lui qui a marqué son 5e but dans la KHL hier, mais pourtant ne joue pas beaucoup de minutes dernièrement.
Hein? Ouais, ça ne m'inquiète pas parce que les quelques minutes qu'il joue, je me fais toujours un devoir de les regarder. Hein. C'est pas long, c'est 3, 4, 5 minutes. Et je te dirais qu'il joue bien. Et après ça, on le cloue au banc sans aucune raison particulière. Alors, au moins, le gars, il ne se décourage pas. Il prend son mal en patience. Il continue à montrer quand même son talent lorsqu'il est sur la glace. Moi, j'ai zéro inquiétude. Ça m'inquiéterait plus s'il y avait encore 2 ans ou 3 ans de contrat. Mais là, écoute, c'est une question de quelques mois. Il perdra pas son talent. Et dès l'année prochaine, comme je t'ai souvent dit, c'est un sérieux candidat au Trophée Calder, d'après moi.
Attends une minute, Simon. Ça t'inquiète pas, mais il joue 4-5 minutes par match ou des fois, il est retiré de la formation dans une ligue qui, oui, est excellente, mais il joue sur un 3e, 4e trio par un entraîneur qui ne l'apprécie pas nécessairement parce qu'on sait qu'il veut s'en aller en Amérique du Nord. Moi, je m'excuse, mais s'il joue 6 mois juste à 4-5 minutes par match, je comprends qu'il ne perdra pas son talent. Mais à un moment donné, c'est un peu un cas d'Alexander Romanov. C'est un peu exactement la même chose, en fait. Moi, ça m'inquiète, là.
Oui, c'est pas le même talent que Romanov, par exemple.
Non, mais lui, c'est ce que je veux dire. On veut voir le gars se développer. Je veux
mais,
pas le
oui,
voir.
Oui, je oui, sais, mais, je, oui. Je le sais, mais t'as pas de contrôle là-dessus.
Oui, je sais, mais qu'est-ce que je te dis,
mais Alex,
tu peux pas ne pas être inquiet, les gars.
Snake, ça l'inquiète pas, parce que même avant qu'il joue un match pour le Canadien, il va l'échanger, Snake. C'est ça.
OK, Tony, là, arrête de
niaiser. OK, je vais aller. Hey! Un commentaire. J'ai du fun avec toi. Laisse-moi avoir du fun avec toi. Je peux avoir du fun avec personne ici. Écoute.
Je suis positif avec Demidov.
Un commentaire sur les deux buts de Michkov hier.
OK. Tu sais que je suis grand fan de Michkov.
Moi aussi.
Tu sais que j'aurais pris Michkov avant Randbacher. Tu sais que je maintiens encore que le Canadien aurait dû prendre Michkov.
Moi aussi. Moi aussi.
Le flanage de Michkov qu'on n'avait pas vu dans les deux premiers matchs, il travaillait fort et tout, là, ça a recommencé un peu hier. En prolongation, à 3 contre 3, les Oilers s'en viennent au filet à 2 contre 1, le gardien fait l'arrêt, et Michkov, lui, il était déjà reparti de l'autre bord en attendant la longue passe. Alors là, les Oilers se sont trouvés pratiquement à 3 joueurs devant le gardien de but et ils ont marqué le but gagnant. Ça, là, c'est inacceptable.
Oui. Ça, c'est...
Ah, John Tortorella a dit la semaine passée, il dit, ça me dérange pas qu'il triche. Parce qu'il dit, il est là pour marquer des buts. Il est pas là pour être, et je cite, un checker. Tu sais, un joueur de défensif. Mais à un moment donné, il y a une limite à tricher puis tricher.
Ouais.
Puis hier, en prolongation, ça a vraiment été terrible. Donc, ça a annulé un petit peu le fait qu'il ait fait les deux buts. Ceci étant dit, on a besoin de talent. C'est un joueur spectaculaire. Et on peut vivre avec ça. De la même façon que Lane Hudson, tu t'achètes un billet de saison à date. Quelqu'un qui a un billet de saison à date pour pouvoir jouer Lane Hudson, il est servi à souhait. Est-ce que tu peux vivre avec les erreurs, peut-être les problèmes en zone défensive? Moi, je pense que oui. Je vais toujours donner priorité, moi, au talent et à la production. Si le gars fait 30 beaux jeux puis qu'il en fait 15 mauvais, ben c'est quand même plus 15. J'aime mieux ça qu'un joueur que tu ne vois pas de la partie.
Oui, j'ai fait mon tête de lait plus tôt dans l'émission, puis j'ai reçu beaucoup de messages textes. Voyons donc, Tony, il ne fitait pas dans les plans des Canadiens. D'un autre attaquant de 5 pieds 9, ils avaient déjà Caulfield, ils ne pouvaient pas aller dans le top 6, puis si le Canadien allait repêcher, ils ne pouvaient pas repêcher Demidov par la suite. Pourquoi? Écoute, j'ai déjà dit que le Canadien a une petite équipe, mais... T'es supposé de repêcher le meilleur joueur, point à la ligne. Puis les petits joueurs,
oui,
à un moment donné, là...
Tu fais le tri de tout ça. Parce que les alignements changent beaucoup. Les contrats expirent. Il y a des échanges qui peuvent être faits. Puis surtout, il y a une sélection qui se fait à un moment donné. Tu sais, il y a un entonnoir, moi, je trouve. Tu sais, tu peux arriver de te dire, ah, exemple, là, un club peut dire, ah, j'ai 3 défenseurs droitiers offensifs dans mes espoirs. Oui, mais il y a des chances qu'il y en ait un qui se blesse puis l'autre qui ne soit pas si bon que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, Demidov, Michkov, Caulfield, accumule-les, puis après ça, tu fais le ménage.
Mais c'est exactement ça que je pense, puis écoute, aujourd'hui...
Les Ducks, excuse-moi de t'interrompre, mais les Ducks d'Anaheim avaient beaucoup de défenseurs offensifs. Ils ont pris Jimmy Drysdale, ils l'ont échangé contre Cutter Gauthier.
C'est exactement ça. Merci, Snake, on va se parler encore la semaine prochaine. Moi, en passant...
Hey, ça a été le fun, Tony.
Hey! Moi, je ne t'échangerai pas.
Merci, Tony.
Moi, je ne t'échange pas. Parce que pour moi, tu es un joueur de talent. Puis moi, les joueurs de talent, je vais les garder avec moi.
Merci, Tony.
OK? Puis oublie pas que Qu'est-ce que je t'ai dit avant le match de tennis? Fais pas ça, OK? Ciao. Salut, Snake.